Voilà, je vais retirer mon masque, ainsi vous pourrez voir mon visage et me reconnaître quand on se reverra, parce que moi, je ne vous reconnaîtrai pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Et je n'en doutais pas, mais maintenant, je peux témoigner qu'à la bonne nouvelle, il y a beaucoup de foi, parce que beaucoup m'ont remercié de ce que je viens prêcher, mais vous ne savez pas ce que je vais dire. Mais en tout cas, voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et ça, c'est une véritable joie parce que la parole est vivante, la parole est opérante, la parole est bien et elle change nos vies. La parole nous parle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et ce matin, je vous propose de partir. Tous ensemble, on va partir en Grèce. Et on va s'immiscer dans l'église de Corinthe, au temps de ses débuts. Donc Corinthe est une ville importante de l'Antiquité, à cause de son port et de ses nombreux temples dédiés aux dieux grecs et romains. C'est un centre économique majeur, et c'est donc tout stratégiquement que Paul va s'y établir pour un an et demi. Et là, il va partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et voilà qu'une communauté, une jeune communauté grandit, s'établit et grandit, c'est l'église de Corinthe, et Paul, une fois que cette jeune communauté est établie, eh bien il va partir vers d'autres horizons, mais voilà, il va la laisser grandir en autonomie, et ça ne l'empêche pas de prendre des nouvelles et de donner de ces nouvelles par une correspondance. Et au travers de ces nouvelles, Paul apprend toutes sortes de problématiques auxquelles l'Église doit faire face. Et donc, il va leur écrire pour les aider, pour les encourager et pour leur éviter certains pièges qui pourraient les faire sombrer dans des dérives dangereuses. Et c'est ce qui amène Paul à écrire la première lettre aux Corinthiens. Cette lettre aborde différents sujets. Il y en a cinq, la division, la sexualité, la nourriture, la communauté, ainsi que la résurrection. Et puis cette lettre se termine par des salutations. Alors ce matin, on reste en communion avec l'Église, puisque ce texte-là est un texte du calendrier œcuménique. Et donc, nous lirons une partie de cette lettre qui traite sur le sujet de la communauté. Et comme vous le savez, puisque ça avait été annoncé dans le petit papier que vous avez reçu, voilà, c'est 1 Corinthiens 12, versets 12 à 30. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 30. Et puis, à la fin de cette lecture, vous pourrez garder vos Bibles ou vos téléphones, l'application Bible ouverte pour continuer à vous imprégner de ce texte. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il ? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs ? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des écarts particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de ce corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le cœur, dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent les miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, les personnes qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles ou de guérir les malades ou de parler en des langues inconnues ou interpréter ces langues. Les chapitres de cette lettre, les chapitres 11 et 14, parlent plus précisément de la communauté et de la manière de vivre le culte. Les chrétiens de cette église de Corinthe aimaient vivre ce culte avec des effusions visibles de l'esprit, car c'était valorisé de sorte que l'un parlait en langue et pouvait être coupé par une personne qui donnait une vision, elle-même interrompue par une explication, etc., etc. Et ce fait prenait beaucoup de place dans leurs réunions, dans leur culte, de sorte que il n'y avait plus vraiment l'annonce de l'Évangile, l'annonce de l'amour en Jésus-Christ. Et les personnes nouvellement venues, les invités, etc., ne pouvaient pas vraiment entendre le message de l'Évangile pendant ces réunions. Alors le problème n'est pas l'effusion de l'Esprit. L'Esprit est là, c'est merveilleux, profitons-en. Mais il y avait un certain désordre. Un certain désordre régnait. Et Paul va donner un enseignement dans ces chapitres qui va aider cette communauté à focaliser leurs pensées sur le but de ce rassemblement afin de les amener à avoir des attitudes appropriées. Et il précise que dans l'assemblée, l'Esprit de Dieu agit en chaque membre, et que cela peut se faire d'une manière coordonnée. Après tout, nous avons un Dieu qui a su mettre l'ordre dans le chaos initial, au moment de la création, et notre Dieu n'a pas changé. C'est toujours un Dieu qui aime l'ordre et qui sait ordonner les choses. Alors reprenons dans notre Bible ce passage au verset 12. Paul utilise la métaphore du corps. Dans l'Antiquité, c'était une image bien connue. Et quand les Corinthiens ont lu ce passage, eh bien ça leur a parlé. Ils connaissaient l'image du corps parce qu'elle était souvent utilisée, notamment pour inciter chacun à rester à sa place socialement parlant. Dans la société, on parlait du corps ainsi. Mais Paul utilise cette image pour souligner la nécessaire diversité de l'Église, comme le fait que le corps humain est composé de différents membres qui ne se ressemblent pas, Pourtant, tous les membres font partie intégrante du corps. Et là, tu peux passer la première slide. Le corps est nécessairement composé de parties nombreuses et différentes. Sinon, ce n'est pas un corps. C'est la première chose que nous dit Paul. Et la différence des membres est telle que peut être très, très importante, comme celle des personnes de culture et de niveaux sociaux différents. C'est-à-dire tout ce qui pourrait faire que les membres ne se connaissent pas, ne se côtoient pas, ne se mélangent pas et ont des pensées et des centres d'intérêt différents, et même des préjugés les uns envers les autres. La différence est telle que ça peut amener à ça. Mais une chose rassemble et unit ces membres qui peuvent être si différents, c'est qu'ils sont baptisés par l'Esprit Saint. L'adhésion au corps se fait par le baptême de l'Esprit Saint. Le mot baptisé utilisé dans ce passage vient du mot baptizo. Il signifie immerger dans la continuité, alors même avec le porte-monnaie, hein, mais immerger dans la continuité. Ça veut dire même quand il sort des eaux du baptême, la personne est encore immergée du Saint-Esprit, environnée du Saint-Esprit dans la continuité. De manière durable. Et donc, tout logiquement, c'est l'esprit qui donne l'identité aux membres du corps. C'est l'esprit qui donne à chaque membre son identité et sa place. Je trouve ça magnifique. Hop, on refait un bond dans le présent. C'est l'esprit qui donne l'identité et la place. Moi, j'ai une place de choix parce que je vous vois tous. Je me dis, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui donne la place. Alors, vous, peut-être, vous pouvez vous retourner et regarder à droite et à gauche et dire, ben, voilà, tu es là parce que l'Esprit Saint le veut, t'as donné la place, t'as conduit ici. C'est beau, n'est-ce pas? Allez, on revient en arrière, on revient à Corinthe. C'est l'esprit qui donne l'identité aux membres du corps. Ainsi, lorsque un membre ne se déclare pas membre du corps parce qu'il n'en prend pas conscience ou qu'il aurait tellement aimé être un œil alors qu'il est une oreille, un pied alors qu'il est une partie de la tête, même lorsqu'un membre aimerait être quelqu'un d'autre, eh bien, il fait quand même partie du corps. Quand même à sa place, parce que c'est l'esprit qui donne la place. Ça ne change rien au fait qu'il est bien membre du corps. Et encore une fois, le texte souligne le besoin de diversité des membres pour être en pleine capacité du corps. Le corps n'a pas besoin de membres identiques. On aimerait tellement que les autres soient comme nous. On aimerait qu'ils aient les mêmes intérêts, les mêmes priorités dans la vie, les mêmes manières de penser. Certainement que les chrétiens de Corinthe de l'époque, peut-être, pensaient pareil. On aimerait tellement que les autres soient comme nous. Et Paul leur dit, on a besoin d'être différents. Et c'est normal d'être différents les uns des autres. Et le corps a une nécessaire... un nécessaire besoin d'avoir des membres différents. Se dire « je préférerais être comme un tel ou un tel », eh bien, ça n'aide pas le corps. Et il est d'autant plus indiqué d'apprécier la diversité du corps, car c'est l'œuvre de Dieu. Il dispose chacun des membres comme il le veut, et ça lui plaît. La diversité est œuvre de Dieu et plaît à Dieu. C'est bien la diversité et l'unité qui font le corps. La diversité et l'unité font le corps. Il n'est donc pas question d'un corps divisé. En 2020, je me suis fracturé le bas de la colonne vertébrale. Et je peux vous assurer que s'il y a fracture dans un corps, là, moi, c'était la division des os, des os, OS. Je suis pas à Moïse. C'est enregistré ? Super. Eh bien, s'il y a division, c'est tout le corps qui est touché et qui ne fonctionne plus vraiment. Et vraiment tout le corps, hein. Même cérébralement parlant, enfin, il y a, voilà, pour un os fracturé. Un manque d'unité affecte tout le corps. C'est un traumatisme important qui demande du temps et des efforts, les efforts de chaque membre pour unifier à nouveau. Et alors, Paul donne un exemple. Comment exprimer cette fracture dans le texte de ce matin ? Eh bien, Paul donne cet exemple aux chrétiens de Corinthe d'un membre qui dirait à un autre membre différent de lui qu'il est inutile. Un membre placé par Dieu est utile. Aucun membre, pardon, placé par Dieu est inutile. Et en utilisant l'image du corps, on voit bien combien c'est absurde de dire à un autre membre « tu es inutile », puisque chacun a sa place, sa fonction, son utilité. Et Paul va plus loin en disant que non seulement tous les membres sont utiles, mais que ceux qui paraissent les plus fragiles, les moins aimables, ou même les membres dont on ne veut même pas parler, doivent faire l'objet d'un soin, d'une attention particulière. Leur importance n'est pas moindre, et en plus, le texte précise qu'ils sont indispensables. Il plaît à Dieu d'accorder plus d'honneur à ceux qui en manquent, et c'est ce qu'il demande aux membres du corps. Accorder plus d'honneur, de place et d'amour à ceux qui en manquent. C'est une règle, c'est avec cette règle qu'il n'y aura pas de division dans le corps, mais une unité dans la diversité. Et cette unité se voit à l'intérêt, au souci que se portent mutuellement les membres du corps. Et donc, dans ce mot « mutuellement », eh bien, les membres doivent tout à la fois savoir donner et savoir recevoir. Autrement, il n'y a pas de réciprocité. Je ne sais pas si certains sont dans le milieu médical ou biologique, mais dans le corps humain, c'est incroyable comme il y a des connexions partout et tous les membres, tous les organes donnent et reçoivent. Une réciprocité. Et l'unité se voit également à la capacité du corps de se réjouir si un membre est honoré, ou à souffrir si un membre souffre. Autrement dit, ce matin, l'image du corps voulu et façonné par Dieu s'appelle le corps du Christ. C'est l'Église universelle, l'Église avec un grand E, dont chacun fait partie grâce au baptême du Saint-Esprit. Chaque membre a reçu un don, une capacité de servir Dieu, la communauté et la mission d'évangélisation. Paul informe les chrétiens baptisés de Corinthe que chacun a des dons différents et une manière différente de les vivre, de les exprimer. Chose intéressante, Paul dit à nouveau que c'est Dieu qui place les membres avec leurs dons et voilà qu'il y a un classement. Premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, etc. Pourquoi ce classement alors qu'on semble dire que tous sont importants? Eh bien, certainement que Paul veut leur faire comprendre plusieurs choses. D'une part, c'est Dieu qui place et donne. Et ce matin, en première partie, on l'a bien vu, Dieu donne toutes choses, tout est grâce. C'est beau, hein? Il n'est pas bon qu'un membre se glorifie ou qu'un groupe de membres se glorifie de sa place et de son don reçu. Tout est grâce. D'une autre part, ce classement indique qu'une seule personne ne peut pas être à la fois enseignant, apôtre et faire toute la liste comme ça. Chaque membre a reçu un, deux dons, parfois plus, mais il ne doit pas prendre toute la place. Ça peut être par manque d'engagement, mais ça peut être aussi par la pensée que seule elle est capable de faire bien. Il y a de la place pour chacun, un rôle pour chacun, pour chaque membre. Il n'est pas bon qu'une seule personne, qu'un seul membre ou une minorité de membres endosse plusieurs places. On risque l'épuisement et que chacun ne puisse pas exprimer leurs dons. Et enfin, que ceux qui ont reçu des places et des dons qui les exposent un peu plus dans les temps de culte, de réunion, de rassemblement, eh bien, il est bon que ces personnes puissent avoir ce temps dans de bonnes conditions. Pour cela, le reste des membres doivent leur laisser cette place en bonne quantité et qualité, de sorte que le culte se passe dans l'ordre et l'efficacité. Alors, en bonne qualité et quantité, ça peut être beaucoup de choses et ça se vit différemment d'une assemblée à une autre. Qu'est-ce que ça peut être? Ne pas être interrompu d'une manière désordonnée, arriver, respecter les horaires autant que possible, etc., etc. Il y a plein de choses. Et nous avons parlé de réciprocité. Elle peut entre autres s'exprimer ainsi. Les premières personnes de la liste des dons doivent avoir cet espace de qualité lors des réunions et des interventions, etc., et doivent aussi avoir une attention particulière à ceux qui ont des dons plus discrets, ceux qui ont des dons qui ne se voient pas forcément du premier coup d'œil. Et pourtant, ils ont leur place, ils ont leur efficacité, ils ont leur importance, et ils sont à honorer de manière peut-être plus visible. Alors, je ne sais pas si nous nous sentons proches des premiers chrétiens de Corinthe ce matin, mais certainement que l'enseignement de Paul est toujours d'actualité pour nous, parce que l'Église, le corps du Christ, est toujours vivant. Merci Seigneur. Et nous pouvons nous aussi faire face aux questionnements, aux problématiques, à la complexité du corps. Ce corps qui, en plus, a une dimension locale, mais aussi une dimension universelle. Alors là, on peut avoir le tournis, on se dit, alors localement, déjà dans notre quartier, déjà dans cette salle, etc., etc. Ça peut donner un peu le tournis. Le passage qui suit le texte de ce matin, c'est 1 Corinthiens 13. L'amour. Monsieur me disait que c'était une belle lettre et un beau passage ce matin. Tout de suite après, on parle de l'amour. Élément indispensable de l'unité. L'amour, c'est même le carburant de l'unité. Cette unité même qui rend témoignage pour la gloire de Dieu. Soyez un, à cela le monde verra que vous êtes chrétien, dit la Bible. En Jean 13. Les amis, je crois que l'unité est un miracle. Nous ne pouvons pas la produire nous-mêmes, mais nous pouvons prier pour continuer à la recevoir, à la fortifier, à la maintenir. Nous sommes appelés à prier pour l'unité et à nous réjouir aussi de ce que l'on vit déjà, tellement d'éléments d'unité. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais avec mon mari, on est tellement heureux d'être ici à Mulhouse, dans ce quartier, de voir nos frères et sœurs, de se réunir avec les prêtres et les pasteurs, de faire le groupe de jeunes ensemble. Et puis moi, j'ai ce privilège de venir et d'être avec vous, mais c'est génial, il faut l'apprécier. Mais ce n'est pas toujours évident, et nous pouvons continuer à prier et à veiller pour cette unité, parce qu'il y a une force dans l'unité. Soyez un à cela, le monde verra que vous êtes chrétien. Quel témoignage, quelle force, quelle puissance dans l'unité. Et donc, nous avons besoin de prier pour recevoir cette unité, recevoir cet amour qui nous vient du Père. Et alors, chose extraordinaire, c'est que nous sommes devancés et aidés dans cette marche, dans cette démarche de prière. Je vais lire Jean 17, versets 20 à 23. Eh bien, c'est Jésus qui prie. Et il dit, « Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et je suis en toi. Qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Prière de Jésus. On retrouve l'unité, l'amour et le témoignage dans cette prière. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus intercède pour nous? Que Jésus nous devance dans la prière? Incroyable. Jésus intercède pour nous. Il nous donne son Esprit Saint qui nous éclaire, nous guide, nous encourage. Le Père protège son enseignement dans sa parole. Eh bien, en fait, je crois que nous avons en main tout ce dont nous avons besoin pour œuvrer à cette unité, pour voir des victoires, pour voir de belles choses, pour vivre de belles choses ensemble. Pour vivre que des éléments si différents puissent être complémentaires et un seul corps. Alors nous n'avons pas à essayer de chercher autre chose ou de chercher à avoir ou à être autre chose. Faisons confiance en notre Seigneur. Je crois que nous le savons tous, mais on ne va pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes une partie de l'Église. Nous ne sommes pas toute l'Église, mais une partie. Notre mission est de servir selon nos dons et d'être servi par les dons des autres membres. Notre unité est l'un des témoignages le plus fort pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Incarnons ce témoignage. face à la richesse de ce texte et à tout ce qu'il met en lumière face à ce que l'on vit en communauté, ce qui dépasse clairement le culte de ce dimanche matin, eh bien, je propose maintenant un temps de prière, un temps de cœur à cœur avec notre Seigneur pour nous laisser imprégner de cet enseignement, de sa parole, de ce que Paul a écrit pour ses Corinthiens, pour ses chrétiens de Corinthe. Et comprendre comment Dieu veut aujourd'hui, en chacun d'entre nous, comment il veut nous fortifier, nous faire avancer, nous équiper, afin que nous puissions continuer à prendre part à ce corps, que nous puissions continuer à l'aimer, continuer à bénir et à être bénis par ce corps, continuer à l'avancement pour le royaume de Dieu, pour sa gloire, l'avancement du royaume. Peut-être que ce matin, il y a une personne qui se dit « Ben moi, je ne sais pas exactement quel est mon don. » Eh bien, c'est le moment de prier et de laisser l'Esprit l'éclairer. Le don est à rechercher vers les choses qui sont simples à faire pour nous, les choses que l'on aime faire. Les choses où on se dit « Ben ça, ça sert l'un ou l'autre, ça va l'encourager, ça va l'aider. » Peut-être qu'une personne sait quel est son don, mais n'a jamais osé le mettre en pratique, le mettre au service, qu'elle n'a pas trouvé le temps ou le courage de l'exprimer, et c'est le moment de demander l'aide à l'Esprit-Saint. Peut-être qu'une personne endosse trop de rôles à la fois et qu'elle est épuisée. C'est le moment aussi de laisser l'Esprit agir. Lâcher prise, lui montrer une personne qui pourrait l'aider. Elle fera certainement d'une manière différente, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que l'un ou l'autre est interpellé par le fait qu'il ne connaît pas réellement le don des autres, des gens les plus discrets. Qui prie pour les jeunes ici? Qui va visiter les personnes malades? Qui est-ce qui vide les poubelles et nettoie les toilettes ici? Est-ce que tout le monde le sait? S'intéresser aux dons des uns et des autres, se connaître, se reconnaître dans les dons et valoriser les plus discrets. Peut-être que l'un ou l'autre a du mal à être fraternel avec des chrétiens d'autres courants. Et pourtant, si c'est l'Esprit qui baptise et qui place. Mais ce n'est pas toujours évident. On ne se connaît pas toujours. Alors, c'est le moment aussi de laisser l'Esprit agir. Et la liste est bien longue, mais vous savez. Et voilà, ce cœur à cœur va permettre d'écouter aussi. Donc, prenons un temps de prière et je terminerai en priant.